Merci au Centre Perelman de philosophie du droit pour son invitation, pour cette magnifique initiative qui est ce séminaire auquel j'avais très envie de participer, mais comme auditeur en fait, plus que comme contributeur. Donc voilà, donc je suis très contente de pouvoir aider, j'espère aider à ma façon, ce programme. La façon dont la question est posée dans le document qui annonce le séminaire, dans mes travaux, j'ai jamais vraiment posé la question de cette manière-là. Les travaux que j'ai faits, qui sont le plus proche des travaux du séminaire, sont des travaux sur la normalisation comptable, dont je ne vais pas vous parler parce qu'il y a déjà eu une séance sur la normalisation comptable. Donc c'est très difficile pour moi comme situation, parce que je me retrouve à pouvoir dire des choses qui pourraient vous intéresser alors que vous avez déjà entendu parler du sujet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de réfléchir sans les mains à ce que je pourrais essayer de vous dire par rapport au thème du séminaire, sans vous présenter une recherche que j'aurais menée, qui serait sérieuse, bien cadrée, etc. Voilà. Je m'excuse d'avance si je dis des choses qui sont banales pour vous. C'est une tentative, comme on dit. Voilà. Alors, là où les... quelles sont mes sources d'inspiration, quand même, parce que pour vous parler de tout ça, c'est-à-dire quels sont mes travaux qui peuvent croiser la question qui est sous-jacente au projet du séminaire. Alors tout d'abord, donc quatre choses. Tout d'abord, le travail que j'ai fait en sociologie de la quantification, qui est lié à des questions comme pourquoi mesurer, pourquoi quantifier, pourquoi les êtres humains estiment nécessaire de mesurer, notamment de mesurer pour évaluer, ou de mesurer pour gérer, etc. Donc c'est cette question-là sur laquelle j'ai un peu réfléchi. Qu'est-ce que ça signifie quand on se dit qu'on va mesurer, qu'on va quantifier, les postulats qu'il y a derrière et les effets que cela a? Alors, dans ce programme-là, qui est d'étudier les êtres humains quand ils quantifient, on va dire ça comme ça, j'ai en particulier fait un travail plus particulier sur le rôle de la comptabilité dans la construction de la firme, construction de l'entreprise. Le caractère tout à fait indispensable des indicateurs comptables, du cadre comptable pour créer l'entreprise. Si je citais Werner Zombart, qui est un sociologue du début du XXe siècle, je dirais que l'entreprise est un monstre matériel qui est créé par la comptabilité et le droit. Voilà, donc on va dire ça comme ça. Donc le rôle essentiel de la comptabilité pour l'entreprise, ce qui ne veut pas dire... Donc c'est une forme de quantification bien particulière sur laquelle je me suis penchée. Alors après, j'ai pas fait vraiment de travaux de recherche là-dessus, mais j'enseigne ces choses-là. Tout ce que j'essaye de faire, enfin de passer à mes étudiants autour de la sociologie des outils de gestion, qui est un peu le pendant d'un programme de recherche qui est en France autour des instruments de gouvernement. Je ne sais pas si vous avez vu le livre de Lascoum et Le Gallès sur repenser les politiques publiques en rentrant par les instruments de gouvernement. Donc moi, j'essaye de faire la même chose, c'est-à-dire de penser le management, ou inciter en tout cas mes doctorants à penser le management en entrant par les outils de gestion, ce qui est à peu près la même chose. Voilà. Donc j'ai un travail, disons, pédagogique sur cette question, parce que dans la recherche en gestion, je suis dans une école de gestion, même si je suis un peu semi-sociologue, la recherche en gestion a abandonné en fait la question de la technique aux consultants. C'est-à-dire qu'il y a une absence de pensée de la technique managériale, elle n'est pensée que par les gens qui ont une pensée fonctionnelle. Donc c'est évidemment très dommageable quand il y a quand le management est pétri de dispositifs, de techniques, etc., instruments. Voilà. Alors le troisième type de travail que je fais et qui croise les intérêts du séminaire, et alors là de façon, je pense, directe, même si j'ai décidé de ne pas présenter ce travail comme je vous le disais, c'est le travail que j'ai fait avec mon collègue Karine Medjad, qui est professeure de droit à HEC, sur la privatisation de la production de la norme à l'Union européenne dans le cadre des normes comptables. Et donc, on a fait ensemble un article qui est publié dans Sociologie du Travail, paru en 2007, qui s'appelle « Une privatisation inédite de la norme ». Voilà. Et puis enfin, quatrième champ, c'est celui que vous avez cité tout à l'heure, qui est en fait ce que j'ai fait avec Luc Boltanski, donc il y a 10 ans, dans le nouvel esprit du capitalisme, mais que j'ai un peu continué avec un de mes collègues parisiens qui s'appelle Nicolas Berland, et que je continue également toute seule en ce moment, qui est de travailler sur l'histoire du management avec comme hypothèse que cette histoire-là est en partie le produit des interactions entre, d'un côté, les possibles technologiques, les espaces et les formes de l'accumulation, c'est-à-dire l'accumulation capitaliste, donc, et d'un autre côté, les demandes de la société, hein, ce qu'on, dans l'ouvrage, on appelle les critiques du capitalisme. Sachant que, et ces demandes de la société qui questionnent la légitimité des pratiques de management. Donc, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, des dispositifs de normalisation, supposé que ce soit des pratiques de management, utilisées par exemple, qui questionnent et qui obligent finalement à construire des dispositifs de management qui sont légitimes au regard des attentes sociétales. La façon que je vais avoir de tirer ça. Donc, ce qui veut dire que pour la question des normes ou des dispositifs de normalisation, une des questions que j'aurais. Qui m'a aidé à construire à moins exposé, c'est à quelle attente finalement demande, problème répondent ces formes particulières de gouvernement, diraient certains, de gestion, diraient d'autres, de management. Voilà. Donc j'ai essayé de partir de toutes ces choses que j'avais fait qui étaient disparates pour essayer de construire un exposé qui vous aide dans votre programme de séminaire que je trouve absolument passionnant. Voilà. Alors, les questions que je me suis posées pour, pas dire je réponds à toutes, mais c'est celles qui m'ont éclairée. Premièrement, quelles sont les spécificités de ces dispositifs de normalisation? Là, je reprends le vocabulaire du programme de séminaire. Alors, il y a des exemples dans le programme. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce dont il s'agissait. Donc, on parle de benchmarking, de ranking, de normes ISO. Dans le programme, on parle de normes comptables. Donc, c'est tout ça qui s'appelle dispositif de normalisation dans le séminaire. Donc, quelles sont les spécificités de ces dispositifs en ce qui concerne l'entreprise? Je suis totalement incompétente pour les autres types d'organisation. Comment caractériser ce qu'ils font, hein? Parce que, en fait, comme vous le verrez tout à l'heure, je pense qu'ils font des tas de choses très différentes et qu'en fait, c'est une grande boîte où il y a pas mal de choses très, très variées quand même. À quelles attentes sociales et projets politiques correspondent-ils? Comment peut-on comprendre leur développement? Et qu'est-ce qui est nouveau ou en développement, parce que quand même l'idée qui est sous-jacente, hein, c'est que ça se développe dans ces dispositifs et qui suggère une tendance dans l'évolution globale, alors comme moi je parle des entreprises, je veux dire l'évolution globale du capitalisme, des pratiques de gouvernement et de régulation des entreprises. Hein. Donc en gros, est-ce qu'on peut s'appuyer, enfin, on va faire l'hypothèse que ces dispositifs se développent, donc il y a quelque chose de nouveau sous le soleil du management de l'entreprise, essayer d'interpréter cette nouveauté comme une tendance, une évolution du management, des régulations du capitalisme, des choses. Donc c'est un peu tout ça qui m'a porté. Ouais. Alors, pour répondre à ces diverses questions, je pensais regarder... faire trois parties qui sont tout à fait inégales en taille, ça mérite d'être thématique. Donc une première partie où, comme je vous disais, ce qu'on appelle dispositif de normalisation, en fait c'est des tas de choses très différentes, enfin ce que vous appelez, ce qui est appelé dans le séminaire, c'est des tas de choses très différentes, donc essayez de faire un peu un tri sur les différentes dimensions de ces dispositifs, qu'est-ce qu'ils font et les projets qu'ils portent. Voilà. Une deuxième partie très petite qui ne parle pas tellement de tous les dispositifs de normalisation, mais on s'en doute que d'une partie, je n'ai pas bien clarifié quelle était la partie que j'avais sous-sélectionnée, parce que je me suis aperçue que j'avais sous-sélectionné une partie. C'est pour ça que j'ai mis. Et donc, qui est le champ d'application de ces normes. Alors, vous voyez, je passe de dispositif à normes. Champ d'application de ces normes et leur caractère volontaire ou non. Hein. Donc, c'est-à-dire, en gros, à qui ou à quoi ces normes s'appliquent-elles. Et là encore, il y a une grande disparité de situations qui me semble intéressante de déployer pour pouvoir faire un travail analytique. Et enfin, le troisième point, qui me semble également très important, c'est comment sont produites ces normes. Et là aussi, il me semble qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil. Hein. Donc, nouveau dans les natures des dispositifs, nouveauté dans... Je suis pas sûre, là. Enfin bon, en tout cas, classification possible en fonction de l'extension et du caractère volontaire ou pas de l'application des normes. Et enfin, troisième point sur lequel j'ai un peu plus de choses à dire, c'est les modes de production de ces dispositifs. Comment ils sont construits, comment ils sont produits. Alors, ce troisième point est suggéré toujours dans l'introduction du séminaire, parce que je n'ai plus le papier là, mais j'ai suggéré une opposition entre ces dispositifs et les dispositifs classiques juridico-politiques, je crois que c'est le terme que vous employez. Hein. Et donc, il n'y a pas seulement ce que font ces dispositifs au monde, il y a aussi comment on les fabrique. Évidemment, ce sont des distinctions analytiques, tout ceci est relié, mais bon, je crois que ça fait du bien de distinguer ces différents points. Voilà. Alors, donc ce que font ces dispositifs, je pense que je peux me passer les transparents. Alors, ce que font ces dispositifs, donc en fait, ils font des choses assez variées, me semble-t-il. Tout d'abord, il y a des dispositifs qui touche à l'évaluation. Hein. C'est-à-dire ce développement de pratiques systématiques d'évaluation quantifiée et de rendu de compte largement quantifié à... Alors, ça dépend du cas. À toutes sortes de parties prenantes, on dirait. Donc c'est le mot-clé, hein, que mettent les anglo-saxons derrière, c'est accountability. Alors d'abord, il y a donc tous ces dispositifs d'accountability, de rendu de compte, qui se développent et qui sont accompagnés par un progrès considérable des indicateurs et de la quantification. Hein, quantification pour rendre des comptes. Et donc un développement à la fois du rendu de compte et du rendu de compte formalisé. Hein, qui touche donc des secteurs qui ne vivaient pas du tout comme ça. Alors là, je sors un peu de l'entreprise, mais par exemple, le secteur des organisations à but non lucratif. Donc typiquement, vous recevez des fonds de l'Union européenne et donc vous devez remplir des rapports longs de 75 pages avec des cadres, etc. Et si vous ne le faites pas, ce n'est pas bien. Donc il y a toute une bureaucratie qui se développe dans toutes sortes d'organisations qui échappaient à l'évaluation quantifiée. Voilà. Donc il y a d'une part cette accountability et puis cette espèce de croyance démesurée, selon moi, dans le pouvoir de la quantification pour faire quelque chose d'objectif. Donc l'idée qu'il y aurait une objectivité du chiffre qui est derrière. Hein. Voilà. Donc on pourrait dire aussi que c'est une nouvelle pensée ou une extension d'une certaine pensée du contrôle qui n'est pas sans lien avec, par exemple, en économie, la théorie de l'agence. Hein. Donc on met toutes sortes d'organisations dans des relations d'agence. On voit des relations d'agence partout déjà, avec des principaux et des agents partout, et avec des agents qui essayent de faire des choses qui ne sont pas bien, et donc un principal qui exige un système d'information pour contrôler l'agent. Voilà. Donc il y a une sorte de... Voilà. Il y a cette chose-là qui est une première chose. Il y a une deuxième dimension qui peut aller avec et qui va avec dans les rankings, mais qui n'y est pas toujours, qui est la question de la publicité de ces informations. Et donc, alors là, c'est un autre projet. C'est pas le projet de l'accountability, c'est le projet de transparency, Évidemment, c'est un projet en anglais, hein, largement. Donc c'est le projet de la transparence. Alors là, c'est un petit peu différent. C'est pas un mandant, c'est pas un agent qui pique dans la caisse ou qui utilise le pouvoir de l'organisation pour faire des choses pour lesquelles il n'est pas mandaté, etc. C'est pas cette espèce d'agent dangereux qu'on nous a construit et qu'on va piloter avec des chiffres de la comptabilité. Là, c'est un projet merveilleux d'égalisation des conditions, de lutte contre la domination, puisque finalement, on va rendre publique toute l'information de façon à ce que des consommateurs sereins puissent faire leur choix en toute égalité. Donc ça, c'est un grand projet démocratique, enfin, si j'ose dire, c'est une démocratie marchande. Hein. Donc dans les écoles, on va publier les résultats des écoles, comme ça, les parents, qui sont des consommateurs d'éducation pour leurs enfants, tout le monde sait, pourront choisir l'école qui ira bien au lieu, parce qu'avant, la situation d'avant, c'est qu'il y avait des gens qui étaient bien informés et qui donc étaient dans une situation de domination finalement, puisqu'ils pouvaient mettre leurs enfants dans les écoles qui avaient le succès. Donc là, on égalise les conditions, donc c'est un grand projet d'égalisation. Voilà. Donc on symétrise l'information pour tous, on lutte contre la domination des bien informés, etc. Donc c'est le projet des associations de consommateurs. Alors derrière ces nouvelles normes, on a d'autres types encore de pratiques, derrière ces nouveaux dispositifs, on a des normes qui portent sur le résultat de l'action. Donc qui vont être typiquement des normes de pollution, des normes d'émission, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc là, on est sur des préoccupations qui sont encore, c'est pas comptabilité, c'est pas transparence, c'est qualité-sécurité. La sécurité du consommateur, la sécurité de l'usager. Hein. Qui font bien partie des normes. On normalise le résultat, le produit. Dans la comptabilité, on va normaliser le concept comptable que l'on est censé mesurer. Et une partie des. Voilà. Donc on peut normaliser des définitions, parce que là, dans la comptabilité, c'est des objets, enfin, c'est des purs construits théoriques. Enfin, on va normaliser des définitions. En actif, ça sera ça. Les normes comptables internationales, on normalise la définition. Enfin, dans toutes les formes de quantification, on a la normalisation de la comptabilité nationale, en fait, c'est la même chose. On normalise là beaucoup des définitions, des concepts. Et puis on a, donc là c'est l'exigence, le projet de sécurisation qui est derrière. Enfin, on a ensuite des normes qui sont encore d'un genre différent, qui elles ne portent pas sur l'output, mais portent sur la façon de mener l'action. Alors celles-là, c'est les plus vieilles, c'est les plus anciennes que l'on connaisse, puisque c'est le taylorisme. Il y a une bonne façon de mener l'action. Donc ce n'est jamais, s'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil dans le taylorisme, c'est une extension du projet taylorien à toutes sortes d'activités, mais qui est que il y a une façon de faire les choses, et donc voilà, c'est tel geste à tel moment, c'est pas en étape 1, elle est avant l'étape 2, on n'inverse pas les choses, etc. Alors évidemment ce projet taylorien qui est arrivé dans les services, etc., il est largement porté par les systèmes d'information. Alors par exemple tous les systèmes de workflow, hein, où vous avez un système d'information qui équipe un processus de décision, et donc on ne peut pas avoir la décision tant que le logiciel, vous n'avez pas validé toutes les étapes du logiciel. Alors il y a des droits, alors c'est machin qui a le droit de valider, il faut qu'il remplisse tel et tel truc, donc voilà, même le processus d'inscription de dossier est complètement contraint, et la procédure est même mise dans une machine. Donc c'est une nouvelle forme de taylorisme, mais le projet qui est derrière est toujours le même, c'est-à-dire que c'est de la production de masse avec des écarts en qualité de production assez faibles. Hein, voilà. C'est le même projet, c'est-à-dire qu'il faut produire massivement des choses à qualité standard. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas inventé, il n'y a pas tellement d'autres façons de faire, hein, que si on prend des pièces mécaniques. Si vous en produisiez plusieurs millions par jour, et que c'est quand même bien qu'elles vous arrivent ajustées au micron près quand même, si vous devez les emboîter par million. Voilà. Donc là, vous avez la norme d'output, vous avez la norme d'emboîtement, etc. Et donc tout ça vous permet de sortir plusieurs millions par jour. On ne fait pas mieux hein, que le taylorisme. Revisité hein, avec le mouvement qualité, c'est un mec, pour faire ça. Voilà. Donc ça, c'est une vieille histoire, si ce n'est qu'elle a envahi, grâce au progrès des technologies, d'autres sphères. Et puis enfin, il y a une cinquième, me semble-t-il, il y a un cinquième élément dans ces nouveaux dispositifs, et qui, lui, est assez nouveau, hein, c'est l'idée que l'on va documenter, là, qui est aussi lié aux puissances de calcul, aux puissances de gestion d'informations qu'on a depuis quelque temps, on va documenter absolument tout ce que l'on fait. Hein. Dans le taylorisme, on documente ce que l'on doit faire, principalement. Et on entraîne les gens à suivre ce qu'ils doivent faire, ou alors on mécanise, on met des machines qui font qu'ils sont obligés de faire comme on a dit qu'ils devaient faire. Là, c'est autre chose, c'est qu'on va tracer la totalité des pratiques. Hein. C'est-à-dire qu'on aura non seulement la norme qui dit ce qu'on fait, mais on aura aussi l'histoire de ce qui a été fait, et ce qui va nous créer des organisations qui sont parfaitement auditables. Donc c'est la traçabilité et l'auditabilité qui est derrière. Et ça c'est... voilà. L'une des choses... Alors derrière l'idée de traçabilité, il y a toutes les questions de sécurité qui reviennent, la question de qualité. On verra après pourquoi ces questions de sécurité se posent d'une manière tout à fait aiguë dans notre monde, qui expliquerait, ce serait peut-être une explication matérialiste, disons, du développement de ce dispositif. Mais on a aussi, derrière ces idées-là, toute la lutte anticorruption, qui a fait des ravages, puisque je parle des entreprises, mais qui a fait des ravages en termes de normalisation des processus de travail, et qu'on appelle compliance. Hein. C'est-à-dire les grands projets de compliance. Le grand projet de compliance, c'est des procédures absolument monstrueuses, comme on avait dans le taylorisme, mais pas à des fins d'efficacité, à des fins de contrôle et de respect, de pouvoir prouver que personne ne pique dans la caisse, pour dire les choses un peu rapidement. Alors si vous voulez voir une organisation qui est complètement torturée par ça, il faut aller voir Siemens, parce qu'ils ont eu des malversations, etc. Donc ils sont en train de mettre la totalité de la multinationale Siemens en couple réglé grâce à la compliance. Donc voilà, là vous avez une sorte de... Donc voilà. Donc, accountability, transparence, qualité, sécurité, le vieux projet taylorien, mais qui trouve à se recycler là-dedans, et enfin traçabilité, auditabilité, compliance. Alors, derrière ces différentes dimensions, vous voyez bien que on peut ne pas être sur un dispositif qui vise à développer la transparence, hein. On peut ne pas être dans accountability. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout le paquet qui est dans le séminaire, en fait, à mon avis, c'est intéressant, c'est de découper, parce que pour chacun de ces aspects, on peut, me semble-t-il, développer des analyses particulières, et par exemple, traquer en particulier le projet de transparence. Hein. Chaque fois qu'on va utiliser... Chaque fois qu'on va utiliser la locution transparency dans les discours, la nature des dispositifs auxquels ça renvoie... la montée en puissance de cet ensemble discursif, etc. Alors, je n'ai pas fait le travail pour chacune de ces notions qui me semblent être le nouvel esprit de la norme, le nouvel esprit des dispositifs de gestion. Mais il me semble qu'il y a plusieurs... ça renvoie à des choses assez différentes. Hein. Le projet d'accountability, de contrôle... Pour moi, il renvoie directement à la perte de légitimité des managers, des professionnels, ce qu'on appelait autrefois les professionnels. Le professionnel, c'est quelqu'un qui avait de l'expérience, qui connaissait son métier, qui avait une éthique professionnelle construite sur le long terme, dans un compagnonnage avec d'autres professionnels, Éventuellement, si on va jusqu'au au professionnel des professions avec un comité d'éthique, un ordre, etc. etc. Bon. Et ce professionnel-là, on n'a pas besoin de lui demander de rendre des comptes. On n'a pas besoin de le contrôler. D'accord ? Parce qu'il est contrôlé, enfin, si on est dans une optique contrôle, il est contrôlé d'une autre manière. Mais on a confiance en lui parce que le mode de production du professionnel, le jeu social, son éthique, hein, il a été sélectionné, fait qu'on n'a pas besoin de lui demander de produire des indicateurs quantifiés. Hein. Voilà. Donc pour moi, la montée de la demande de rendu de compte et de la demande de rendu de compte quantifiée, c'est lié à une perte de légitimité et de confiance dans ces personnes qui fait que l'on veut absolument pouvoir reproduire leur jugement de façon mécanique. Hein. C'est-à-dire que finalement, c'est comme s'il n'y avait pas, comme si rien ne devait échapper à une mise en norme. Alors on sait bien que dans le jugement professionnel, il y a des tas de choses qui échappent. Ah, ça, alors je vais prendre un exemple. Si on prend l'exemple du jugement médical, le jugement médical, certes, dans un certain nombre de cas, on peut avoir un système expert, parce que c'est ça le rêve de l'évaluation. Un système expert où on rentre les symptômes, et puis le système expert, il vous sort la maladie et le traitement. D'accord ? C'est ça le projet de la quantification. C'est la reproduction parfaite, et c'est le contrôle, la transparence parfaite, y compris. Du jugement du professionnel. Hein. Or, on sait bien que il y a un certain nombre de choses qui sont pas, qu'on ne peut pas mettre en système expert, qu'on ne peut pas quantifier. Il y a des bons médecins qui ont des bons diagnostics parce qu'ils ont vu des tas de choses, parce qu'ils ont de l'intuition, parce qu'ils lisent plus que les autres, etc. Bon. Voilà. Alors, comment, imaginons qu'on essaye de contrôler ou de demander des comptes à ce médecin-là qui est sur de la médecine de pointe, etc., avec des indicateurs quantifiés, ça n'a aucun sens, on voit bien. D'accord ? Le contrôler, enfin, si on veut qu'il soit bon, la meilleure manière, c'est peut-être de le laisser rencontrer d'autres collègues, de voir un maximum de cas, de discuter, etc. C'est pas de lui demander, je ne sais pas, combien de boîtes de médicaments il a faites, combien de. De je sais pas quoi de diagnostic il a posé, vous voyez bien, on n'est pas du tout voilà. Donc, et pour les managers, pour les responsables d'institutions, les responsables d'organisation, c'est la même perte de confiance, c'est-à-dire qu'un directeur d'université, un directeur d'organisation, etc., il est mauvais ou il est mauvais ou il gaspille ou il manque de moralité ou il va piquer dans la caisse, etc. Donc il a besoin, donc on ne peut pas faire confiance dans son professionnalisme, dans son équipe professionnelle, etc. Et il faut absolument le soumettre à un contrôle extérieur. Donc ça, ces thèses-là, la thèse que je vous reprends, c'est une thèse qui est développée par Ted Porter dans Trust in Numbers, et qui, alors lui, il oppose ce qu'il appelle disciplinary objectivity à mechanical objectivity, donc deux formes d'objectivité. Et pour lui, le développement de mechanical objectivity est lié à la perte de légitimité des anciennes formes d'objectivité. Je vous ai juste repris sa thèse, mais elle me semble extrêmement juste. Donc dans le texte qui présentait le séminaire, il y avait, finalement, c'était dans votre mail, il y a cette idée de perte de confiance dans l'autorité, enfin, en tout cas les figures d'autorité, qui fait qu'on doit les contrôler. C'est possible avec des chiffres. Pourquoi ? Parce que le chiffre, vous avez des chiffres, vous avez des benchmarks, n'importe qui est capable de faire un calcul idiot d'écart entre l'objectif, etc. Donc même le pire idiot qui ne comprend rien au sujet, il est capable de dire il y a un écart. Voilà. Donc c'est reproductible par tout le monde. Vous voyez ? Donc, en plus, c'est démocratique. C'est n'importe. N'importe qui peut juger une université, un médecin, un chef d'entreprise, il suffit de regarder les cas. N'importe qui est capable de porter un jugement reproductible, puisqu'on verra tous qu'il y a un écart négatif, et donc on dira tous c'est mal, vous voyez. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors, le projet de transparence, ben, j'en ai déjà parlé, c'est le projet d'une démocratie qui passe par marché. Voilà. Donc on va, donc c'est toujours la même idée, c'est l'idée libérale classique, c'est-à-dire que C'est-à-dire que sous réserve que l'information soit partagée par absolument tout le monde, les usagers, parce que ça va, sont capables, par leurs décisions individuelles et décentralisées, d'envoyer des messages aux fournisseurs de produits et qui vont bien s'apercevoir, le patron de l'école, le responsable de l'école qui va voir qu'aucun parent veut inscrire ses enfants, chez lui, il sera bien obligé de réagir, autrement son école mourra. Voilà. Enfin, j'exagère, mais c'est ça, parce que finalement, vous avez les subventions publiques qui n'arrivent pas, etc., etc. Et donc, c'est vraiment l'idée d'une régulation, du bienfait d'une concurrence, sous réserve que l'ensemble des participants au marché soient informés de façon égale. Alors, le projet de sécurité, de traçabilité, à mon avis, il est porté par un autre... encore autre chose, c'est pas la peur. Il est porté par une inquiétude grandissante face à l'artificialisation, en fait, on pourrait dire ça comme ça, hein, de la production. Donc face à un monde industriel mondialisé, c'est-à-dire qui fonctionne en réseau, enfin, c'est-à-dire déstructuré, on n'est pas dans l'entreprise totalement intégrée, qui maîtrise la totalité des composants de sa production, mais une entreprise en réseau qui va acheter tel composant à tel endroit, telle chose à tel endroit, etc. Donc une foultitude. Puis la les gens à qui il achète, achètent aussi à 50 endroits différents, font fonctionner. Voilà. Donc une mondialisation énorme, des technologies de pointe que. Aucune personne capable de prendre la mesure totale du produit, de la défabrication. Et donc, il y a, et avec voilà, une hyper-technicisation de tout ça, d'un système qui est porté par l'exigence de rentabilité, de productivité, qui fait que toute forme organisationnelle ou combinaison qui nous permet de faire baisser les prix, des choses un peu rapides, mais va être bonne à prendre pour un industriel, d'accord. Et donc, si on ajoute toutes ces décisions, on se retrouve face à des produits dont on est absolument incapable, la personne est capable de comprendre le danger qu'il y a dans cette bouteille, par exemple. Hein. Donc, on ne sait pas de quoi était le plastique, on ne sait pas comment il était fabriqué, on ne sait pas combien de morts il y a eu, enfin, je veux dire, bon, voilà. Tandis que dans un monde, vous voyez, hyper hiérarchique, où tous les produits seraient produits à la banlieue de Bruxelles, où on aurait le plastique, l'eau et tout ça. Bon, c'est très facile de connaître, d'avoir une étude complète de la bouteille d'eau. De nos jours, c'est plus possible. Donc il y a une inquiétude radicale, et à mon avis fondée, sur ce qu'on mange, ce qu'on consomme, dans quoi on se transporte, etc. Qui évidemment réclame une forme de contrôle. Voilà. Et donc le problème, c'est que cette forme de contrôle, on n'est pas capable de la faire. Puis dernier point, qui me semble être parmi les causes de ces dispositifs, il y a l'impuissance du contrôle. Je suis page 1, j'ai 6 pages, je parle trop longtemps. L'impuissance du contrôle hiérarchique. Hein. Je vous disais, je vous parlais de la vieille des trucs. Dans un monde de processus mondiaux interconnectés, ultra complexes, je déteste le mot complexité, ça me fait toujours rire quand les gens disent c'est complexe, mais je pense quand même qu'il y a un accroissement de la complexité des processus de production. Donc permettez-moi de parler de complexité. Le contrôle hiérarchique est incapable, et tout le monde d'un peu sérieux vous dira que le marché est insuffisant. Puisque aller informer complètement le consommateur sur l'origine de tous les produits, même sur un produit extrêmement simple, de tout ce qui est rentré, de tous les gens qui ont été mobilisés dans le monde entier pour produire cette bouteille d'eau, c'est mission impossible, quoi. Donc on se rend bien compte qu'il y a un impossible, hein, du contrôle classique. Voilà. D'où la seule, finalement, enfin, le seul dispositif envisageable qui est... des engagements pris par les producteurs ils sont les seuls à pouvoir le contrôler, d'accord? Donc ils vont prendre des engagements assez précis, ils vont vous dire, ben oui, il n'y aura pas plus de telle émission de produits dégoûtants quand on le brûlera, ça sera convenable, vous n'aurez pas plus de, je sais pas quoi, enfin, vous imaginez tous les engagements qu'ils vont prendre. Le producteur qui confectionne le produit et qui a accès lui au réseau qui lui permet, etc., va répercuter ses engagements sur toutes ses chaînes de valeur, va travailler qu'avec des gens qui vont bien vouloir prendre le même genre d'engagement, etc. Donc en gros, c'est un système économique qui s'engage pour produire un peu de fiabilité ou un peu de sécurité, hein, à respecter un certain nombre de normes qu'ils sont les seuls à pouvoir contrôler. Et donc au quotidien, et donc là, vous ajoutez la couche suivante, c'est-à-dire l'acceptation d'un audit indépendant, une fois de temps en temps. C'est-à-dire qu'en gros, l'essentiel du contrôle est fait là, mais pour que ce soit crédible, ils acceptent de recruter des gens qu'ils payent eux, d'ailleurs, bon, qui vont venir voir s'ils respectent bien les procédures qu'ils ont dit qu'ils allaient respecter. D'où l'importance de documenter est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, etc., tout au long de la chaîne. Et donc là, on peut dire que, enfin, oui, dans cette organisation morphologique, hein, de la production, il n'y a pas d'autre solution, je pense, pour fiabiliser la production et rassurer par certains côtés aussi, hein, si on, parce que je vous disais, il faut, l'une de mes préoccupations, c'est de faire le lien avec les demandes sociales, de rassurer quand même sur la chose la plus facile à comprendre, c'est sur l'innocuité des produits ou sur le fait qu'ils ne vont pas mettre en danger aujourd'hui avec le développement durable les générations futures, etc., hein, qui est une demande qui monte, qui monte, qui monte, hein, celle de critique du monde de l'industrialisme qui est de plus en plus forte, avec une inquiétude de plus en plus poussée chez les personnes, vous voyez, sur l'alimentaire aujourd'hui, notamment, disant qu'est-ce qu'on mange. Donc qui oblige les entreprises à prendre en charge eux-mêmes ce contrôle. Et, voilà. Donc, si vous voulez, derrière toute cette panoplie de dispositifs, il y a des choses quand même très très variées. Disons qu'il y a des tendances sociales qui sont quand même assez variées. Donc la méfiance envers les formes d'autorité hiérarchique, hein, dont on a parlé, toujours soupçonnée d'être au service d'intérêts particuliers ou d'une domination, le projet politique libéral de la transparence, la mise en concurrence et l'égalité de tous, les effets d'un monde en réseau mondialisé et les problèmes de contrôle afférents, et l'artificialisation croissante de la vie qui crée une inquiétude pour l'ensemble des participants. Donc ça, c'est pour le premier point, hein, sur les différentes dimensions, aspects de ces dispositifs de normalisation. Et en fait, bon, c'est juste une proposition, disons, c'est un programme de recherche ce que je fais là. Il me semble que ce serait intéressant de prendre chacune de ces cases et puis finalement faire un travail un peu sérieux, je vous dis, sur le projet de la transparence. Il y a des gens qui l'ont fait, hein, des gens qui ont commencé, sur le projet de la comptabilité, sur le projet la sécurisation, la traçabilité, qui sont des morceaux qui répondent à des questions, des exigences différentes. Alors, deuxième partie, toute petite, ces normes, autre façon de découper le problème, ces normes, elles sont appliquées à qui ? Alors, est-ce que ce sont des normes qui ne valent... Alors, je pensais que je passais de dispositif à normes. Donc, à mon avis, c'est une partie des dispositifs. Est-ce que ça ne s'applique qu'au niveau d'une entreprise, hein? À ce moment-là, le manuel d'audit et de finance, le MAF, souvent, qu'on a dans tout, le manuel des financiers d'une entreprise, vous avez toutes les procédures, le manuel de la décision d'investissement, etc. Donc, c'est une normalisation qui est propre à une entreprise. Enfin. Ensuite, et là, je pense que c'est ceux-là qui sont les plus intéressants sur le plan politique, parce que le premier, c'est la gestion de l'entreprise, c'est pas neuf. Ça prend des formes nouvelles, hein, avec les NTIC, etc. Le multi-entreprise, donc des normes qui sont valables pour plusieurs entreprises, mais de façon volontaire. Alors là, derrière, on a les chartes, les labels, les adhésions à des associations, on s'engage, les contrats multilatéraux éventuellement, etc. Donc ça me semble être des choses qui sont en croissance. Cette normativité inter-organisation volontaire. Alors, qui va... Volontaire ne veut pas dire totalement maîtrisé. On va avoir, on va dire, bah tiens, je suis agriculteur, je veux avoir le label agriculture biologique. Je ne sais pas s'il est valable en Belgique, parce que c'est AB en France. Donc il y a toute une charte comme ça. Donc puis de temps en temps, je vais avoir un auditeur qui vient. C'est volontaire, mais le label, je le partage avec plein d'autres entreprises. Et donc, c'est une normalisation volontaire que je partage et qui est un signal sur le marché de sécurité. En l'occurrence, voilà. Ensuite, on a d'autres types de normalisation qui sont des multi-entreprises obligatoires. Donc ça, c'est le prototype, c'est la norme comptable. Ça s'applique à tout le monde et puis c'est obligatoire. Hein. T'es obligé d'appliquer les normes comptables. Et puis enfin, il y a, les choses se croisent et ce n'est pas indépendant, il y a, est-ce qu'on reste au niveau national, auquel cas, si c'est obligatoire, on a la puissance de l'État qui est là, la police, le tribunal, toute cette puissance publique là qui peut rendre obligatoire, ou est-ce qu'on est sur du niveau international où les capacités finalement d'imposer, de rendre obligatoire sont très faibles. Donc on a évidemment l'Union européenne qui peut rendre en multinationale, mais enfin c'est quasiment on reste dans du hiérarchique. Et puis il y a éventuellement des normes qui sont opposables à l'OMC, qui est une façon de rendre obligatoire, tout neuf, ça vient de sortir. Et donc par exemple on a les normes du Codex Alimentarius qui sont produites par l'ONU à Rome, enfin par je ne sais plus quel, on parle Codex justement, qui est une production très laborieuse en intergouvernementale, qui était un truc qui n'intéressait personne, où il n'y avait pas de lobby, pas de boîte, il n'y avait personne qui y allait, qui participait au débat, jusqu'au jour où les normes du Codex sont devenues opposables à l'OMC. Et à partir de ce moment-là, c'est fou comme elles ont. Il y a eu un regain d'intérêt pour ces normes. Donc voilà. Mais au niveau international, c'est très difficile. Comme vous le savez, vous êtes bien. Vous êtes des meilleurs spécialistes que moi sur tout ça, parce que je parle. Vous savez, c'est le. Vous êtes. Je suis l'aveugle au royaume des gens qui ont deux yeux, donc pardonnez.
C'est très ouais. Bien.
Comment ? Non, mais je ne connais rien à mon endroit, hein, donc vous êtes bien fou. Voilà. Et donc, l'une des raisons, des choses qu'on a développées, enfin qui sont assez classiques, mais notamment avec Karim Medjad, là, quand on travaille sur les normes internationales, c'est que le développement de la soft law, enfin, l'une des formes de la soft law qui est le volontaire multi-entreprise, évidemment, son champ d'action privilégié, c'est l'international, quoi. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire comme obligatoire international ? Quasiment rien. Enfin, surtout si c'est du mondial, quoi. Encore sur l'UE, on y arrive, mais si on a des... Vous voyez bien que pour sécuriser les processus de production qui sont sur 50 pays, il n'y a pas d'autre solution que du normatif autogéré. Enfin, en tout cas, voilà. Mais ça me semble, disons que c'est pas la même façon, c'est une dimension à prendre en compte si on analyse un dispositif en particulier. Et enfin, troisième partie, la question des modes d'élaboration de ces normes. Hein? Donc, dans les modes d'élaboration, c'est qui les établit, avec qui a le droit de parler, qui a le droit de contribuer, qui décide. Enfin, toutes les questions qu'on peut se poser, ça prend combien de temps, est-ce que c'est transparent, est-ce que c'est pas transparent, etc. Alors, sur ces modes de production de ces normes, là encore, je pense que je vais dire des choses tout à fait banales pour vous, mais qui sont toutes très simples dans ma petite tête à moi. Ce qui me semble marquant, c'est plusieurs points. Tout d'abord, des processus plus participatifs. Mais quand je dis ça, je donne de l'eau au moulin à ceux qui l'ont. C'est un jugement. C'est eux, c'est ce qu'ils disent. Leur processus à eux, ils sont plus participatifs. Donc, et qu'est-ce qu'ils entendent par là? En fait, c'est la participation de deux types d'acteurs qui ne participent pas forcément dans d'autres productions de normes. Premier type d'acteurs, ceux qui sont soumis à la norme. Là, c'est la participation au sens pur, c'est-à-dire on participe à produire les règles que nous allons ensuite nous appliquer à nous-mêmes, parce que nous sommes raisonnables, etc. Donc ça, participation de ceux qui vont être soumis à la règle, et pas seulement leurs représentants. On sait depuis l'anarchisme que les représentants sont une nouvelle forme de domination. Mais bon, il y a une critique derrière. Enfin, évidemment, quand vous faites participer directement les acteurs, vous êtes dans une critique de la représentation. Hein. Voilà. Et pas des experts. Directement les. Alors quand c'est de la norme pour les entreprises, hein, vous faites participer les entreprises avec les questions politiques qu'on peut se poser en disant c'est déjà des acteurs forts. Alors ils vont produire une norme qui vont s'appliquer à eux, parce qu'évidemment les PME participent pas. Hein, donc avec des questions. Mais on peut considérer, d'ailleurs ceux qui poussent ce genre de choses peuvent considérer que c'est plus démocratique que de faire délibérer des gens qui connaissent rien et qui vont pas être impactés, etc. Voilà. Donc plus participatif dans ce sens-là. Et plus participatif au sens de la convocation de toutes sortes d'experts. Pas forcément des gens qui vont être soumis à ça, mais qui sont, alors, la société civile, l'arrivée en main de la société civile dans les processus. Donc tous ces experts auto-institués, excusez-moi, je m'amuse à faire une critique, mais bon. Donc c'est vrai que, par exemple, pour représenter la nature, on n'a pas, comme vous savez, c'est un grave problème politique, on n'a pas de représentant officiel élu de la nature. Donc évidemment, c'est forcément des ONG, mais ce sont des expertises privées, auto-constituées en experts, et qui vont participer, vont censer représenter des intérêts. Donc on a d'une part ces participations-là, et puis dans le cas, et puis ceci peut être doublé, donc ce qu'on a dans les normes comptables, de fameux due process. Hein. Alors le due process, c'est comment ça fonctionne, ça vous devez le savoir aussi. C'est-à-dire, vous avez un organisme 100% privé qui décide de faire une norme. Alors ils sortent un texte et ils le mettent sur le site internet. Avant c'était pas comme ça, maintenant c'est le mettre sur le site internet et puis ils disent appel à commentaires. Donc tout le monde a le droit de participer. C'est vraiment merveilleux. Donc vous pouvez écrire demain à l'ISB sur son dernier projet de norme et envoyer un courrier, un commentaire en disant que vous trouvez que cet article-là est mal rédigé, etc. Vous voyez bien qu'on a une participation massive et sans l'échelon des représentants, tout le monde a le droit de participer. Donc on envoie les lettres et toutes les lettres sont mises en ligne sur le site hein, maintenant. Comme ils sont soumis à des gros problèmes de légitimité, ils sont hyper transparents. Voilà. Donc tout est en ligne et ensuite les représentants de ces lieux traitent dans leur immense sagesse la totalité des commentaires, ont un truc magnifique qui doit s'appeler un algorithme de marché, vous savez, vous avez l'offre et la demande qui se rencontrent, mais eux ils arrivent à construire le bon prix, ils arrivent à construire le texte qui va réconcilier tous ces commentaires et ils remettent le texte en ligne en expliquant pourquoi ils ont modifié l'article comme ça. Et en disant, une majorité de commentaires, alors ils comptabilisent les commentaires, nous disaient qu'il y avait ce problème-là, donc on a orienté comme ça, et puis de temps en temps, on voit le pouvoir d'organiser, ils disent, mais bon, en revanche, nous n'avons pas voulu donner satisfaction à une autre majorité, c'était ça. Alors après, là, vous avez d'autres arguments, c'est la cohérence, etc. Mais le processus est totalement clair, et donc vous avez une énorme participation. Alors, deux points, qu'est-ce qu'on peut dire de ces dispositifs de production de la norme? C'est premièrement, pour ceux qui participent à une norme qui leur sera imposée, c'est des choses assez classiques, c'est-à-dire que vous avez une production de compliance ou d'autocontrôle qui est extrêmement forte. Hein, entre. Cette production d'autocontrôle, hein, elle est utilisée depuis très très longtemps dans les dispositifs managériaux. Je prends par exemple des choses qui ont été faites il y a 25-30 ans, quand on a fait les équipes autonomes de production dans les usines. On a dit à des équipes d'ouvriers, ils étaient 7, 10, il y avait un coordinateur, mais plus d'hierarchie, on leur a dit vous devez nous sortir la quantité, la qualité dans les délais. Hein, vous avez des machines, des ressources. Débrouillez-vous. Non, j'exagère, hein, mais hein. Vous faites comme vous voulez, vous organisez comme vous voulez. Et donc là-dessus, c'est formidable parce qu'une autonomie au travail énorme. Enfin, c'est bien mieux quand même que d'avoir le bureau des méthodes qui vous dit tu fais ça, etc. Donc avec un enrichissement des tâches, comme on a dit, qui était un vrai progrès puisqu'on pouvait changer. Enfin, l'équipe s'auto-organise. Mais donc il y a des très beaux textes, enfin des très belles études ethnographiques qui ont été faites là-dessus. L'équipe autonome, en tout cas au tout début, c'est formidable, on participe à la norme, etc. Et puis petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des nouveaux qui arrivent dans l'équipe, donc on éprouve le besoin d'écrire la norme, puisque le petit collectif ne suffit plus, donc il y a un passage à l'écriture, qui n'est pas obligatoire au départ, mais il y a les normes, les règles de l'équipe, etc. Il faut appeler quand on est en retard, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Des chartes d'éthique, l'engagement, être fidèle, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer qui permet qu'un collectif continue à travailler ensemble, surtout quand il y a des nouveaux qu'il faut socialiser très vite. Et puis ensuite, certains dans l'équipe qui prennent la position de faire respecter la règle, etc. Et on se retrouve avec des systèmes de contrôle qui sont infiniment plus serrés que dans le système taylorien. Enfin, on se retrouve avec un système taylorien, mais avec de l'adhésion en plus. Donc c'est infiniment plus serré. Donc un des articles auxquels je pense s'appelle Tightening the Iron Cage. Donc on resserre la cage d'acier alors que normalement c'est un dispositif de libération. Voilà. Donc ce genre de choses, quand vous prenez les normes ISO dans les entreprises, c'est pareil. C'est pas les équipes autonomes, mais c'est pareil. C'est-à-dire que vous arrivez chez quelqu'un, c'est les normes qualité, la norme ISO, elles vous disent vous devez avoir des procédures pour toute chose. Mais elles ne vous imposent pas la procédure. Donc vous allez dans les services, quand les entreprises voulaient se faire normaliser, et on disait aux gens de service, il faut que vous écriviez des procédures. Donc ils produisaient leurs propres normes, qu'ils mettaient dans leur dossier de normes, donc une autoproduction. Évidemment, ensuite, vous êtes censé respecter une norme que vous avez écrite. Quoi. C'est même pas, vous n'avez même pas, si vous voulez, une extériorité insupportable, une domination, puisque c'est vous-même qui avez écrit les normes auxquelles vous allez obéir. Voilà. Donc ça, c'est très fort, et c'est très fort dans le néo-management. Je prendrais, je ne sais pas quoi, n'importe autre chose, par exemple les 5S. Le miracle des 5S, c'est ranger. Toute chose doit avoir une place. Il faut qu'elle soit rangée systématiquement, etc., etc. Vous imaginez un 5S dans un bureau d'académique, c'est horrible. Parce qu'il n'y a plus de papier qui traîne, le bureau est vide, tout est super rationalisé. Qui sent rien, mais bon. Il y a dans les bureaux, dans l'industrie automobile, vous appliquez les 5S dans les ateliers, on demande au bureau de faire ça. Hein, mais évidemment, c'est très douloureux pour les gens dans les bureaux de cacher. Hein. Bon. Voilà. Bref. Donc cette participation, elle a des vraies vertus quand même, on va dire ça comme ça, d'autocontrôle. Quant à l'autre situation, qui est le fait que c'est pas seulement c'est n'importe qui et puis des experts. Appelés ou institués qui participent, ces nouveaux dispositifs de participation qui ne sont pas avec des représentants élus et mandatés, c'est pour moi des nouvelles formes de construction de la légitimité des normes. Hein. On voit bien dans le cas de l'IASB, donc de l'organisme international qui produit des normes comptables, il ne représente personne. Ils s'entrecooptent. C'est une autre cooptation, une auto-cooptation, etc. Ils ne représentent absolument personne. Ils n'ont aucun principal. Ces gens-là. Donc, c'est des choses qu'on leur demande de leur mettre un principal. Donc, ils n'ont pas de rendu de compte, pas d'accountability, etc. ils ont une et la façon dont ils construisent la légitimité, c'est par cette plus ils sont attaqués, parce que Dieu sait qu'ils sont attaqués depuis que l'Union européenne a décidé de les rendre obligatoires, plus ils sont attaqués, plus ils deviennent transparents, plus ils sophistiquent le due process. D'accord ? Donc il y a 15 ans, le due process était moins apparent, maintenant tout est en ligne. D'ailleurs, c'est pratique pour les chercheurs comme moi, parce que finalement, vous avez toute l'information, vous avez toutes les réactions, vous savez ce que pensent tous les acteurs, etc. Vous savez qui est intéressé par ce truc, tout est en ligne. Donc ils rendent transparent. Ça, c'est un très bon signe d'ailleurs de manque de légitimité. Parce qu'il y a d'autres organismes de normalisation, par exemple les organismes de normalisation technique, qui sont, je ne sais pas, le CNELEC, enfin les trucs, donc, qui font des normes techniques. Eux, quand vous allez sur leur site, ben, vous n'avez rien en ligne. Pourtant, ils ont un due process. Vous n'avez rien en ligne, parce qu'ils n'ont pas besoin de montrer à quel point ils sont participatifs et transparents. Alors, deuxième point sur les modes de production, les logiques d'expertise, les experts, l'arrivée des experts. Donc là, moi encore, tout ça c'est informé par la normalisation comptable. Ce qui est très marquant pour une Française, dans les organismes, la normalisation anglo-saxonne, dont fait partie l'ISB, c'est qu'en France, nous avons un Conseil national de la comptabilité où siègent des représentants mandatés par des corps sociaux. Des représentants de l'État, des différents ministères qui sont présents, des représentants des salariés, on est le seul organisme de normalisation au monde à faire siéger les syndicats. Donc le salarié, évidemment, les salariés sont intéressés au calcul du profit, hein. Il ne faudrait quand même pas qu'on l'oublie. Donc des gens qui sont là et qui siègent en tant que représentants des salariés, des représentants du patronat, et puis depuis peu, on a mis des représentants des comptables, mais c'est récent. Pour nous, c'était des gens qui exécutaient. Hein, vous voyez la représentation qu'on avait, nous, d'un homme comptable, c'est-à-dire qu'il y avait l'État, les entreprises, les salariés qui étaient intéressés au calcul du profit. Et donc ces gens-là ont des intérêts naturellement contradictoires dans la pensée du fordisme, ils sont naturellement contradictoires, c'est même la lutte des classes, hein, l'apaisement de la lutte des classes par la garantie de l'État, donc on était dans ce principe-là, donc des intérêts naturellement contradictoires que seul un débat politique contradictoire permet de résoudre dans une enceinte qui est le CNC. On produit une norme technique qui est appliquée par les techniciens, les comptables qui ne participent pas au processus. Donc logique de représentant, logique de conflictualité, etc. La normalisation anglo-saxonne, les comptables produisent, ils sont dans l'autoproduction de normes qui s'appliquent à eux-mêmes, des comptables, donc des experts, produisent les normes qui vont s'appliquer à eux-mêmes, parce que ce sont des experts. D'accord ? Et donc là, cette évolution vers les experts, même dans les pays, donc vers cette arrivée des experts, donc quelles sont les conséquences ? Encore une fois, là je pense que j'enfonce des forces ouvertes pour vous, ce sont des normes qui sont élaborées sur une négation, enfin qui vivent sur une négation complète de la conflictualité sociale. Ils nient l'existence d'intérêts divergents. Il y a ni l'existence de la politique. Hein? Des intérêts divergents à qui il importe de donner la parole et qui doivent avoir un droit de décision pour négocier des compromis. Donc il n'y a pas de débat sur les choix de société, etc. Au niveau international, j'entendais une conférencière il n'y a pas très longtemps qui connaît très bien l'UNESCO et qui disait, ça a en partie à voir, etc., mais les sessions plénières de l'UNESCO, autrefois, elles étaient dites politiques, c'est-à-dire, c'est pas bien ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des débats en assemblée contradictoires très forts et des votes. Et on votait et il y avait des minoritaires et des majoritaires. D'accord ? Donc la contradiction, la conflictualité, le débat de société était présent au moment de la norme et on votait. Donc c'était le principe d'équivalence. Le vote, et on survivait, les minoritaires avaient le droit de. Enfin, ils existaient, ils étaient reconnus à leur façon. Aujourd'hui, on a dans les organismes internationaux, mais aussi dans ces nouveaux organismes qui produisent de la soft law, etc., le postulat qu'on va travailler sur le consensus. On fait du consensus. Et pourquoi on veut faire du consensus ? Parce que c'est technique. Voilà. Hein? C'est là. Donc, le « et », on va tout mettre sur l'idée qu'il faut produire des normes qui vont être fonctionnelles. Hein, c'est ça le projet, c'est un projet de fonctionnalité. Et les experts, ben, ils connaissent bien les dispositifs qui existent déjà, ils voient bien les problèmes qui existent, donc ils vont bricoler le droit, ils vont bricoler la norme, vous l'agencer pour que ça soit plus smooth, plus souple, etc. Les grands débats qu'il y a derrière, que seuls peuvent lever des gens qui ont un peu de recul sur le détail, ne peuvent plus avoir lieu, et donc il y a un recouvrement, si vous voulez, du politique par le technique au nom de la fonctionnalité. Alors derrière tout ça, vous avez évidemment aussi ce qu'on a dit, perte d'autorité, etc. On a aussi qui est aussi derrière, bon, ça c'est parce qu'on est sur des normes internationales, une perte de légitimité complète de la voix de l'État-nation. Je vous disais, la logique de représentants disparaissent, maintenant ce sont les experts qui délibèrent. Mais c'est la même façon quand on regarde, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'ISB, et là, je disais, ils ont des problèmes de légitimité, donc ils font des réformes institutionnelles tous les 5 ans, c'est dans leur statut, mais c'est passionnant parce que vous avez tous les débats qui sont en ligne. Et l'ISB, quand l'ISB parle, c'est-à-dire quand ils font leur motion de synthèse, hein, en gros, vous entendez tout le temps, les États-nations ont des intérêts. Or, eux, donc, ils ont des intérêts, pas privés, mais particuliers. D'accord ? Donc, ils n'ont pas le droit de décider. Et c'est presque écrit comme ça. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont au service de l'intérêt général. C'est merveilleux quand même de voir ça. Donc, seuls les experts qui n'ont pas d'intérêts nationaux, qu'on peut reconstruire autrement, sont capables d'être au service du public interest. Hein, ça, c'est vraiment... C'est beau, hein, comme... Et alors, évidemment, quand les Français, vous savez, on adore l'État, etc. Alors là, une critique de l'État comme ça, ça nous marque énormément. Voilà. Et donc, il est absolument inadmissible, finalement, de faire siéger un État dans un processus de normalisation. Hein. Outre le fait que c'est très peu efficace, comme vous le savez, l'intergouvernemental, parce qu'on a beaucoup de mal à produire des choses, surtout quand on décide que c'est de l'intergouvernemental consensuel. Alors, je parlais du Codex Alimentarius tout à l'heure, mais le Codex Alimentarius, depuis que ça, c'est du quasi-obligatoire, parce qu'il y a l'OMC dernière qui fait qui peut rendre des décisions en s'appuyant sur les normes du Codex, et qu'on est dans la norme du consensus, c'est que du consensus, c'est-à-dire c'est 190 États qui doivent être d'accord sur une norme. C'est la norme, les normes alimentaires, hein, c'est pas important du tout, hein, pour pouvoir être voté. Donc c'est pour ça qu'au Codex Alimentarius, il n'y a pas de normes sur les OGM qui peuvent sortir. C'est impossible de produire des normes sur les OGM. Enfin, tous les sujets qui fâchent en fait les grands États-nations, on ne peut pas normaliser dessus. Donc, on comprend bien que l'intergouvernemental n'est pas efficace. Donc sur l'alimentaire, c'est sûr que la bonne solution, c'est de mandater une association privée avec des experts privés de l'alimentation qui vont produire des normes privées en écoutant qui ils veulent. Oui, au moins il y aura des normes. Voilà. On va dire ça comme ça. Et puis ils vont produire un corpus de normes alimentaires très très développé. Et un jour, l'Union européenne va dire « Oh, quelle merveille! Il y a un corpus de normes tout fait et il est international. » Donc ils vont dire « Ben voilà, je le prends, je le mets dans mon droit, il devient obligatoire. » Et on voit bien que c'est la seule option, si vous voulez, parce que aussi il y a cette négation de la conflictualité. Si on avait des intérêts en présence, des votes, ben voilà, il y a des minoritaires, des majoritaires, le monde avance. Mais tant qu'on est dans ce... Voilà. Donc cette crise de l'État, alors la crise de l'État, la légitimité de l'État qui est derrière en tout cas dans la norme internationale, on voit bien que c'est pas une crise uniquement fonctionnelle, c'est-à-dire c'est très difficile de faire de la norme internationale avec de l'interétatique. C'est aussi l'attaque libérale, hein, il faut laisser le marché agir, on a un État qui est quand même trop dominant. Du côté de la gauche, c'est la critique du totalitarisme, si vous voulez. Donc l'État est quand même attaqué de partout. Et en plus, il n'est pas très efficace au niveau international pour réguler un capitalisme mondialisé. Donc il est attaqué à droite, il est attaqué à gauche. Il est inefficace pour réguler la mondialisation. Et en plus, il est en crise économique, nous a-t-on dit, il n'a pas assez d'argent. Donc on va quand même... Vous voyez, donc si vous voulez, c'est vraiment, on est dans une période où c'est très difficile de faire du... Voilà. Et enfin, dernier point sur la production de la norme, il y a trois sous-points, donc, et puis ça sera ma conclusion, je vais beaucoup trop parler. Donc je vous disais, c'est le mode de production. Donc là, le thème, cette participation, qui n'est donc pas des participations de représentants, hein, mais une participation qui remplace la participation par des représentants d'intérêts divergents, les logiques d'expertise, et enfin, ce développement de la soft law, hein, de la norme non obligatoire, volontaire et internationale. Hein, on va prendre celle-là. Donc ce développement-là que tous les analystes du droit, je crois, pointent du doigt. Donc on a vu, hein, ses intérêts ou ses tenants, c'est-à-dire c'est plus facile politiquement que l'intergouvernemental. C'est plus souple parce qu'il y a un plus faible nombre de participants, même si tout le monde est censé participer à l'IASB, ils sont 14. Vous pouvez avoir 150 lettres, 200 lettres, 800 lettres envoyées. Vous avez un état-major technique qui analyse les lettres. Et ils sont 14 à décider. C'est plus facile de se mettre d'accord à 14 qu'à 180. Donc c'est plus souple. Donc si on veut faire évoluer les choses, c'est plus réactif. Voilà. C'est plus facile. Alors, c'est moins cher, soi-disant. C'est moins cher pour la puissance, pour une puissance publique, pour l'Europe, qui a décidé de prendre les normes comptables internationales. Il y a quand même une question économique qui est majeure, c'est-à-dire que ils sont allés prendre des normes qui étaient produites par une officine de droit privé qui n'avait aucune légitimité, comme vous expliquez, qui produisaient leur machin, ils appelaient ça international, bon, alors qu'il n'y avait que des Anglais, et ils ont dit, voilà, je prends ça, ça devient l'Europe. Ils ont quand même bénéficié du fait d'avoir un corps de normes complet, gratuit. Parce que pour produire des normes internationales, des négociations, etc., ça coûte horriblement cher. C'est des matières extrêmement techniques. Tandis qu'à l'ISB, ben, vous avez tous les cabinets d'audit qui envoient des gens bénévolement, vous avez de l'expertise, vous avez des... Voilà. Donc c'est gratuit. Et en plus, avec ce système des soft law, donc des normes volontaires, alors là c'est plus sur la compta mais les normes volontaires, vous avez donc des organismes privés qui produisent de la norme gratuitement, et puis vous avez des entreprises qui décident d'y adhérer, qui se contrôlent tout seul et qui payent des gens, des auditeurs sur leur dossier pour se faire contrôler. C'est super, hein, quand même. En théorie c'est assez rentable puisque vous n'avez plus à faire la police, vous n'avez plus à... Ils payent tout. Ils payent l'élaboration du droit, le contrôle du droit. Évidemment, vous voyez les critiques qu'on peut faire derrière en disant que c'est peut-être dangereux quand même. Donc c'est quand même extrêmement économique, on peut dire aussi pour un... Voilà. Et puis, dernier point, qui est quand même assez long à expliquer, c'est que... l'idée dont je veux partir, c'est que, évidemment, ces processus de soft law internationaux, c'est les seuls possibles, hein, pour réguler, comme je vous le disais, des processus internationaux où on n'a pas un État mondial ou un Parlement mondial, enfin, on n'a pas d'autre solution pour faire du droit international, enfin, de la hard law internationale, c'est quand même la façon la plus... Enfin, de la law internationale, pas de la hard. Et alors, ce qui est intéressant, alors là je prendrai ma casquette, histoire de l'entreprise et la critique, ce que je trouve intéressant, c'est que, alors, comment vous le faire en pas trop long, donc j'ai un modèle où le capitalisme et ses pratiques de management avancent sous le coup de boutoir de la critique, et la critique, en partie, ce qu'elle fait, elle cherche à éviter que le capitalisme crée trop de désastres. Alors, sachant qu'il y a des désastres de nature diverse. Hein. Bon. Aujourd'hui, on a quand même deux désastres énormes, avec une critique assez massive. On a la vieille question sociale du 19e qui est de retour, hein, dans nos pays développés, mais aussi au niveau mondial. Hein. Donc on a d'une nouvelle, enfin, un accroissement des inégalités, une nouvelle pauvreté, les working poor, etc., des tensions sociales. Et au niveau mondial, on a les déséquilibres pays riches, pays pauvres, et puis le tiers-monde qui est chez nous, enfin une tiers-mondisation, etc. aussi. Alors, cette question sociale, elle est épineuse, et on ne peut pas... les grands de ce monde, on va dire ça comme ça, ne sont pas insensibles, si vous voulez, ils ne sont pas aveugles à ça, et il y a des tas de gens qui leur rappellent, hein, donc là, le rôle de la critique qui... On voit une question sociale, et puis maintenant, chose qui est maintenant tout à fait acceptée, on a une question écologique qui est également massive. C'est-à-dire qu'on a un capitalisme mondial qui nous fait aller droit dans le mur. Alors, je ne parle pas seulement du réchauffement climatique et de l'épuisement du pétrole, mais en général, l'épuisement des ressources naturelles. Incapacité de la planète, en tout cas dans l'organisation actuelle, à nourrir tous ces, comme nous le rappelle, les émeutes de la faim. Bon. Donc, on a un système économique qui nous fait aller droit dans le mur. Sur le plan écologique, c'est à peu près bien documenté aujourd'hui. Et puis, sur le plan social, il y a quand même un certain nombre d'inquiétudes. Voilà. Alors, face à ça, si j'en suis le modèle, la montée de la critique, la montée des questions, etc., la logique, c'est que le capitalisme endogénéise une partie des propositions de la critique, je vous fais le modèle, et puis s'amende lui-même, sous la pression de la critique, s'amende lui-même, et donc on a le développement de la responsabilité sociale de l'entreprise qu'on peut regarder comme ça, c'est-à-dire... ces grandes multinationales qui ne sont pas insensibles aux contradictions du système économique qu'elles produisent, disons. On peut se dire qu'elles sont totalement cyniques et qu'elles font ça pour faire taire, etc. Mais on peut aussi considérer que... Et on a quelque chose qui, pour le coup, là, est assez unique au monde, c'est-à-dire, enfin, unique dans l'histoire, c'est qu'elles se disent, disons que les multinationales qui sont à l'avant-garde de ce processus, pas celles qui suivent parce qu'elles sont obligées, par mimétisme, elles se disent que elles sont les seules à pouvoir réguler le capitalisme mondial. Donc on a une sorte d'affichage comme on n'en avait jamais eu, qu'ils sont les seuls à pouvoir produire le droit mondial. D'accord ? C'est quand même, on est dans cette situation-là. Et donc, ils sont en train de nous construire quelque chose d'un peu troublant, ce que moi j'appelle la nouvelle troisième voie. Alors, la troisième voie dans les années 30, c'était pas le socialisme d'État, c'est-à-dire la nationalisation, l'expérience soviétique qui était là. Donc, pas le socialisme d'État, mais pas le libéralisme qui avait fait la crise de 29, les chômeurs, etc. Et donc, toutes les années 30, c'est passionnant, c'est il faut construire quelque chose entre ces deux voies, voilà. Donc pas trop d'État, mais quand même pas zéro État, c'est-à-dire pas un libéralisme sauvage. Et donc il me semble qu'aujourd'hui, c'est la même discussion. Alors, pas, si ce n'est que le trop d'État, il n'est pas placé au même niveau. Hein. On n'est plus en train de se bagarrer contre le modèle soviétique. Le trop d'État, c'est l'État qui empêche quand même le flux des affaires, c'est l'État qui ponctionne trop de valeurs, etc. Donc, pas trop d'État, donc surtout pas revenir à l'État fordien, etc., un capitalisme, etc., qui était soumis à l'État, qui rentre dans ses frontières alors qu'il s'en est libéré pour sa plus grande joie. Donc pas trop d'État, et en même temps on peut quand même pas continuer à faire ce qu'on faisait jusque là. Donc il faut qu'on construise une sorte de voie intermédiaire, et comme on n'a personne pour le faire, nous allons le faire nous-mêmes, et donc on peut aussi analyser ces nouvelles formes de normalisation comme une comme un projet politique, on va dire, des grandes firmes, enfin là je parle que de l'entreprise, des grandes firmes multinationales pour construire le droit qu'ils vont s'imposer à elles-mêmes, qui vont les réguler, pour laisser, pour garder une dynamique économique durable, comme ils disent. Hein, durable. Un développement durable, c'est bien donc la protection de la dynamique sans tomber dans aucun des écueils. Voilà. Alors, évidemment, les critiques qui les stimulent de l'extérieur, qui leur donnent des idées, parce que bon, ils trouvent que c'est un petit peu un emplâtre sur une jambe de bois, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne s'auto-contraignent pas seulement, mais c'est quand même ça le projet qu'il y a derrière. Voilà. C'est fini, incroyable.
Bien, merci beaucoup pour cet exposé. Alors, comme d'habitude, je vais donner la parole à ceux qui sont venus discuter à la fois.